J'imagine que c'est un texte que vous connaissez déjà, vous avez certainement lu, c'est ce que j'imagine. Vous allez le reconnaître, mais moi-même, j'ai jamais prêché un message avant sur ce texte. Quelque chose cette semaine m'a inspiré à regarder de plus près ces versets. Et puis de cela, j'ai décidé de le considérer avec vous ce matin. Je vais commencer la lecture de la Bible avec le verset 9. Donc c'est Romains chapitre 10 et le verset 9. Le verset qui nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous un même Seigneur qui dirige tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et le « il » ici, avec le « n », nous rapporte à quiconque dans le verset 13, et aux Juifs et aux Grecs du verset 12, dans tout le monde. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Notez les cinq verbes dans ce texte. Le verset 14, nous avons le verbe invoquer, en qui n'ont pas cru, donc nous avons appelé le verbe croire, et comment croire, c'est répéter en ceux qui n'ont pas entendu, et comment entendront-ils parler, c'est le troisième des verbes, s'il n'y a personne qui prêche, voici le quatrième, et comment prêcheront-ils, ou comment aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Donc voilà les cinq verbes ici. Invoquer, croire, qui est répété, entendre, qui est répété, prêcher et envoyer. Donc ce que fait l'apôtre ici, il nous pose une série de questions rhétoriques. Chaque événement présuppose le suivant. C'est une chaîne de situations ou d'événements qui est suivi à l'envers, c'est-à-dire c'est pas chronologiquement vers l'avant, cela qui entraîne ce qui suit, mais plutôt on va dans le sens. Cette chose a été entraînée par cette chose qui est le fait de cette chose qui est le fait de la première chose. Pour que quelqu'un invoque, il faut qu'il croie. Pour qu'il croie, il faut qu'il entende. Pour qu'il entende, il faut que quelqu'un prêche. Pour que quelqu'un prêche, il faut qu'il soit envoyé. Vous voyez ces cinq verbes. Donc, si nous prenons ces verbes dans l'ordre inverse, je crois que nous apprenons quelque chose d'élément essentiel au salut et quelque chose même de la nature de la foi. L'origine divine du message, si on commence à l'envers, la transmission humaine du message, le contenu objectif du message, le récepteur croyant du message et puis la réponse salutaire au message. Donc on pourrait les appeler les verbes de l'évangélisation. Parce que cela ne parle pas de la manière dont le salut a été acquis, mais la manière dont le salut a été communiqué. D'accord? On ne parle pas de la manière dont le salut a été acquis par Jésus-Christ sur la croix. Mais comment est-ce que ce salut est maintenant communiqué aux hommes et aux femmes Et c'est là le sujet de ces versets. C'est pour ça que je dis pas du salut plutôt que de l'évangélisation, c'est-à-dire le fait de partager maintenant la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ. Ces cinq verbes sont indispensables pour le salut de chaque personne. Donc tout d'abord, on va commencer à l'envers, selon le texte, mais à la première chose, chronologiquement. Tout d'abord, l'origine divine du message. Après tout, il faut un envoyeur, n'est-ce pas? Il faut un expéditeur. Chaque lettre n'a pas seulement un destinataire, elle a un expéditeur. Et c'est pareil avec le salut. On reprend ces cinq choses. Pour qu'il y ait quelqu'un qui invoque, il faut un croyant. Pour qu'il y ait un croyant, il faut un entendeur ou un auditeur. Pour avoir un auditeur, il faut un prédicateur. Pour avoir un prédicateur, il faut un envoyeur. Et le verset 15, regardez-le, nous dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Donc on se demande tout de suite la question, c'est qui envoie ces prédicateurs? Que pensez-vous? S'ils ne sont pas envoyés, c'est qui envoie ces prédicateurs? Est-ce que c'est une église, une société missionnaire, votre pasteur? Eh bien, je vous propose que on parle ici d'une commission divine, c'est-à-dire que c'est Dieu qui envoie ces prédicateurs. Notez tout le verset 15, regardez-le dans vos bibles parce que je ne l'ai pas ici sur l'écran. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Donc il va parler de ce phénomène d'être envoyé, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La citation a un rapport avec ce fait d'être envoyé. Ils sont envoyés selon, comme le dit Esaïe, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est une citation d'Esaïe 52 et verset 7. Regardez tout le verset, parce que Paul n'a pas cité tout le verset, mais nous allons lire d'après le verset 6 et le verset 7. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Donc c'est qui parle ici? C'est Dieu. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Dieu dit, me voici. Donc, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui parle, c'est son message. Et maintenant, notez le verset qui suit, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui apporte, vous voyez, le verset cité par Paul en Romains 10, qui est ce verset en Ésaïe 52, nous voyons que la bonne nouvelle est apportée par quelqu'un, par ses messagers, mais selon le verset 6, Dieu dit, c'est moi qui parle. Donc, nous avons des messagers qui sont humains, ils ont des pieds, hein, après tout. Mais le message est divin. L'expéditeur, si on revient à cette illustration, est divin, et Dieu lui-même. C'est Dieu qui envoie le message. Donc, l'origine du message est divine. Il y a celui qui apporte de bonnes nouvelles, hein, dans le verset, et cette bonne nouvelle vient de Dieu lui-même. C'est moi qui parle, me voici. Et donc on peut ajouter à cela que la commission des messagers est divine. Pas seulement est l'origine du message divine, mais même la commission est divine. Ce mot envoyé en grec est le mot d'où vient le mot apôtre. Les apôtres étaient des gens envoyés. Et maintenant, Dieu envoie un message, et il envoie ce message par un messager qui est lui-même envoyé. Paul nous dit que c'est la dernière, mais chronologiquement la première, n'est-ce pas, condition nécessaire pour le salut d'un être humain, et que ses prédicateurs soient envoyés. Et puis il cite Ésaïe 52, afin de, entre autres choses, hein, souligner le fait que cette condition a été remplie, c'est-à-dire Dieu l'a fait. Il a envoyé ses messagers, ils sont là. Donc juste pour nous arrêter un peu sur là, je ne crois pas qu'on peut trop souligner l'importance de cette étape. Parce que si nous n'avons pas cette étape, nous n'avons pas de prédicateur, n'est-ce pas? Et donc pas d'auditeur, et donc pas de croyant, et donc aucune personne qui invoque le nom du Seigneur pour être sauvée. C'est Dieu qui doit non seulement fournir le moyen du salut, mais le faire connaître. Vous réalisez ça, c'est Dieu, non, pas seulement qui doit fournir le moyen de salut, mais le faire connaître. Il doit non seulement le produire, mais le promouvoir, si vous voulez. Non seulement l'effectuer, mais l'énoncer. Parce que sans l'un, sans l'autre, nous sommes sans espoir. Même s'il a pourvu le salut, s'il ne sait pas connaître, nous sommes toujours sans espoir. Et là, nous voyons que Dieu est actif dans les deux choses. Pas seulement de nous donner le salut par son Fils, mais maintenant de nous le faire connaître par ses messagers. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une découverte humaine, mais c'est une révélation divine. Vous savez la différence? C'est exactement ici que nous voyons la grande différence entre les religions du monde et la révélation divine, parce que le vrai christianisme est avant tout pas une découverte humaine de Dieu, mais une révélation divine à l'homme. Pas une découverte humaine de Dieu, mais une révélation divine à l'homme. C'est dans ce sens que vient la révélation. Ce n'est pas que Abraham, prenons Abraham par exemple, par son propre gré a décidé de faire des études, je ne sais pas, chercher la transcendance, ou chercher la divinité, ou chercher où était Dieu, et puis tout d'un coup, dans toutes ses recherches, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre un Dieu, un jour il découvre Dieu. Et puis plus tard, il y a Moïse qui est en train de chercher, et puis dans ses recherches, il découvre un Dieu qui est en train de se cacher. Mais là, on l'a trouvé. Vous savez, votre Ancien Testament, vous savez l'histoire de la Bible pour savoir que ce n'est pas du tout comme cela que c'est passé. C'est Dieu à chaque fois qui prend l'initiative pour venir vers l'homme. En fait, la Bible dit que nul ne cherche Dieu. Et chaque fois, c'est Dieu qui vient à Abraham, c'est Dieu qui vient à Moïse, c'est Dieu qui va plutôt venir à David et aux prophètes, c'est Dieu qui va venir, Jésus-Christ qui va venir à l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Paul qui cherchait Jésus-Christ. Donc le christianisme n'est pas une découverte humaine, elle est une révélation divine. L'origine est divine, la commission est divine. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous pouvons nous réjouir dans le fait que le Seigneur a fait cela, il a envoyé les messages. Et puis nous voyons le deuxième verbe, le verbe prêcher. Et là, nous voyons la transmission humaine du message. Regardez le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Là, nous voyons maintenant cette partie humaine, la transmission humaine de l'Évangile. La prédication, le moyen choisi par Dieu de répondre maintenant à cette nouvelle, est une personne qui prêche. Vous voyez, le mot « personne » en verset 14, ça parle d'une participation humaine. C'est un homme, c'est une personne. Donc Dieu a choisi l'homme comme un maillon essentiel à la conversion de l'homme. L'homme doit prêcher. Et je crois qu'en citant Ésaïe 52, cité dans verset 15, je crois que l'apôtre utilise le mot grec évangélion exprès ici. C'est le mot évangélion qui veut dire porter la bonne nouvelle. Et ce même mot est utilisé en Actes chapitre 8, verset 4, où il dit, je vais vous le lire, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole, évangélisant la parole. Je crois à la lumière de ce verset-là que nous pouvons prendre ce mot prêcher comme comprenant toutes les formes dans l'évangile et partager en privé ou en public. L'évangile est répandu par ses prédicateurs. Différentes manières. Et comme je l'ai déjà dit, la citation d'Ésaïe 52
souligne le fait que Dieu a envoyé des messagers. Il l'a fait et nous pouvons dire qu'il le fait toujours. Il le fait toujours. Donc, le mot en verset 15, c'est évangéliser ou partager la bonne nouvelle, mais le mot utilisé dans le verset 14, qui traduit prêcher, c'est un mot qui veut dire annoncer, comme un avant-coureur qui vient devant le roi pour annoncer que le roi arrive. C'est un héros, pas H-E-R-O-S, mais H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire quelqu'un dans l'histoire antique. Il était un officier chargé de faire des publications solennelles dans la face du roi. Un héros. Il venait et il annonçait, publiait la nouvelle loi ou l'annonce du roi. Et voilà ce que sont ces personnes. Donc d'après ce texte, nous pouvons définir la prédication comme l'annonce de la bonne nouvelle venant d'un messager envoyé de Dieu. C'est l'annonce de la bonne nouvelle, l'évangile, venant d'un envoyé, d'un prédicateur envoyé de Dieu. Donc Dieu a envoyé des messagers et il le fait toujours. Qu'est-ce que Jésus a dit avant de monter au ciel en Marc chapitre 16 et verset 15? Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, ça c'est la commission que Dieu a donnée, que Jésus-Christ a donnée. Nous le retrouvons en Matthieu, chapitre 28. Nous nous retrouvons dans différentes formes, mais en Luc et en Jean, et au début des Actes des Apôtres. Cette commission, Dieu toujours se soucie de ce fait que cet évangile soit partagé et proclamé, et il donne toujours des commissions à son peuple. Nous avons notre commission, comme Esaïe à l'époque, comme ceux qui annonçaient le retour en Israël de ceux qui étaient captifs à Babylone, c'est le contexte d'Esaïe 52, eh bien c'est pareil pour nous. Je crois que personne ne peut nier le fait qu'il y a une force centrifuge de cette bonne nouvelle qui veut se propulser dans le monde entier, veut se faire connaître. Je crois que c'est ici une des plus belles défenses de ce qu'on appelle l'activité missionnaire de l'Église. De prêcher, de partager. Nous avons tous été du côté récepteur de ce phénomène. Quelqu'un nous a prêché l'Évangile. Mais nous devons aussi être du côté émetteur de ce phénomène. En le prêchant, en le partageant avec l'autre. Nous avons notre commission en main. Dans les évangiles. Nous avons nos ordres de Dieu. Et donc nous devons déboucher notre marche, mettre en marche notre bouche et obéir le Seigneur ici. On devrait pouvoir dire de nous qu'ils sont beaux vos pieds parce que vous annoncez la bonne nouvelle. Vous venez à pied ou en voiture ou je ne sais pas en train, mais vous venez avec de bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que je dis que vos pieds sont beaux, que votre venue parmi nous est beau. Je demande alors, quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, parlons de ce message. Je crois que c'est un peu le terme de ce troisième verbe, le contenu objectif du message. Regardez le verset 14 encore. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc après les verbes envoyer et prêcher, nous avons ce verbe entendre, qu'il a deux fois dans le verset 14. Ils doivent entendre parler et ils entendent encore parler. En fait, on pourrait mieux le traduire « Comment croiront-ils en lui s'ils l'ont jamais entendu ?» Et « Comment l'entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche ?» C'est-à-dire, ça ne parle pas du fait qu'ils entendent le prédicateur, mais qu'ils entendent soit Dieu lui-même, qui peut être l'idée qu'a la porte dans son esprit, soit l'Évangile. Comment l'entendront-ils? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils vont entendre Dieu s'il n'y a personne qui prêche? Ou comment est-ce qu'ils vont l'entendre? Comment est-ce qu'ils vont entendre la bonne nouvelle, l'évangile, s'il n'y a personne qui prêche.
Ce qui d'ailleurs revient à la même chose, parce que rappelez-vous que Dieu disait à travers ses serviteurs en Ésaïe,
« Me voici, c'est moi !» Donc, c'était lui qui parlait, mais par le biais de ses messagers.
Donc, d'entendre l'évangile, c'est d'entendre Dieu. Parce que ça vient de lui. En fait, les messagers sont que les facteurs, ils sont que ceux qui apportent la bonne nouvelle. Mais la nouvelle est Dieu qui parle. Si on entend la bonne nouvelle, c'est qu'on entend Dieu. Le point que je veux souligner ici, c'est que c'est Christ lui-même qui parle à l'individu. Vous savez cela? Quand vous entendez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est Christ lui-même qui vous adresse. Regardez dans vos livres Jean chapitre 10. L'évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean chapitre 10. Et Jésus dit dans le verset premier, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Donc ici, il ne parle pas de faux brebis, il parle de faux bergers, qui entrent dans le troupeau, mais qui sont faux. Mais verset 2, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Regardez le verset 13, là à la fin du verset 13, où Jésus dit, « Je suis le bon berger, verset 14. Je connais mes brebis, mais elles me connaissent comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Vous voyez, c'est Christ lui-même qui parle à ses brebis, et c'est ses brebis qui reconnaissent la voix de leur maître. Et le message est objectif, on va le souligner dans un instant. C'est l'évangile, mais c'est Christ qui vous adresse dans le message. Le prédicateur, comme j'ai dit, n'est que le facteur, mais c'est Christ qui vous adresse. Un verset que j'aime beaucoup, c'est Éphésiens 2, et verset 17, où il nous est dit, « Il et sa parole de Jésus-Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » C'est Paul qui parle. Il parle aux chrétiens d'Éphèse et peut-être des alentours, des chrétiens qui n'ont jamais vu le Christ quand il était incarné sur terre. Ils n'ont jamais entendu la voix de Christ sur la montagne en train de prêcher, mais il leur dit que Jésus est venu vous annoncer la paix. C'est Jésus qui les adresse et c'est Jésus qui nous adresse ce matin. Même si c'est Dieu Christ qui les adresse par le biais du prédicateur, ce qui vous dit n'est pas mystique, n'est pas vague. C'est une nouvelle qu'il vous donne, c'est un message clair et net. Pour ça, il dit, comment croiront-ils celui qui n'ont pas entendu, ou l'évangile qui n'ont jamais entendu? La foi n'existe pas dans le vide, n'est-ce pas? Personne croit d'un coup en rien. Ils ne peuvent pas croire dans l'évangile s'ils n'ont pas entendu l'évangile. Cela veut dire qu'il y a une base de notre foi. Il y a une base fondamentale sur laquelle, si nous n'avons pas cette base, nous n'avons pas cette foi. On ne peut pas entendre autre chose et puis croire en Jésus-Christ. Pour pouvoir croire, il faut entendre Jésus-Christ qui se révèle par ses
des prédicateurs qui sont les envoyés de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle d'un contenu objectif même de ce message. Parce que c'est pas entendre n'importe quoi. Ils entendent Jésus-Christ ou ils entendent l'évangile qui est prêché par ces prédicateurs qui sont envoyés de Dieu. Notre foi n'est pas dans n'importe quoi. Mais avant qu'une personne puisse croire en Christ, il doit entendre ce que Christ a à lui dire. Et donc, quel est le message que Christ lui adresse? Bon, dans le contexte de Romains, je crois que c'est assez facile, c'est l'Évangile. Il vient de discuter pendant 10 chapitres ce que c'est l'Évangile. Hein. On pourrait commencer avec le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, où il explique l'Évangile. Mais il y a une partie de cet Évangile qui est soulignée dans le contexte immédiat. Paul cite en verset 15, Ésaïe 52, on a parlé déjà. Mais écoutez le texte entier, on va maintenant voir une partie du texte qui vient à la fin. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, quoi? Ton Dieu règne! Ton Dieu règne! Voici une partie fondamentale à l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est le règne souverain de Dieu qui est absolument essentiel à la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus a si souvent parlé de quoi? Du royaume de Dieu. Parce que c'est un royaume sans un roi. Si Dieu n'a pas surgi dans le monde avec une autorité royale, il n'y aurait pas eu de bonnes nouvelles. En Marc 1, Jésus, quand il commence son ministère, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile, la bonne nouvelle. Et quand il prêchait l'évangile, la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, le roi est présent, donc le royaume est proche. Repentez-vous, agenouillez-vous devant le roi, soumettez-vous au roi et croyez à la bonne nouvelle. Dieu a surgi dans le monde avec cette autorité royale pour changer notre destin, pour régner sur nous, pour sa gloire et pour notre bien. Dans les mots d'un prédicateur datant de plus de 3 siècles, je veux dire que le grand destin et intention de la fonction du prédicateur chrétien est de restaurer le trône et la domination de Dieu dans les âmes des hommes. C'est ça le grand destin, la grande intention de la fonction du prédicateur, c'est de restaurer le trône et la domination de Dieu dans les âmes des hommes. C'est de venir aux hommes et aux femmes et de dire: ton Dieu règne, il est roi, le royaume est ici. Repentez-vous, croyez dans la bonne nouvelle, ou ce roi se tournera contre vous. Vous serez détruits par ce roi. Soit on est pour le roi, soit on est contre le roi. Mais on ne peut pas nous créer un pays séparé où nous régnons comme roi nous-mêmes. Soit nous devons être constamment en rébellion comme la Bible, qu'on se lit, soit nous devons nous soumettre à lui. Nous ne pouvons pas faire un pacte avec lui comme un autre royaume souverain. Hein, il y a le Dieu, roi Dieu, et puis il y a le roi moi à côté. Et on s'entend bien, ça ne peut pas se faire. Dieu règne. Il règne. Il règne sur les affaires du monde et des pays et des rois et des présidents et des premiers ministres, et il règne sur les affaires de nos vies, de nos jours après jour, les événements de chaque jour, petit et grand. Donc la foi ne peut pas être vidée de teneur. La foi exige un objet, même si l'objet est moi-même, hein, il y a des gens qui croient en eux-mêmes, mais j'aime pas quand on parle des gens de foi. Qu'est-ce que c'est une personne de foi? Hein, une personne qui croit, ça ne veut rien dire. La Bible dit « maudits sont ceux qui croient, mais qui placent leur confiance en l'homme, et bénis sont ceux qui croient, et qui placent leur confiance en Dieu, en Jérémie 17, je crois. Donc, la croyance, la foi peut nous maudire en tant que nous bénir. Il faut qu'on entende Dieu, il faut qu'on entende l'Évangile, il faut une connaissance fondamentale de la révélation de Dieu en Jésus-Christ à travers sa parole et publiée par ses prédicateurs. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas entendu? Il n'y a pas de salut sans une connaissance de Jésus-Christ. Comme Virginie disait, ma condition humaine, le contenu objectif. Et puis, il parle en quatrième lieu ici du récepteur croyant du message. Le récepteur, celui qui le reçoit. Verset 14 au début, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il dit qu'un quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il y a à peine 15 jours, un chrétien qui aime beaucoup le Seigneur et qui grandit dans sa foi, quand j'étais au nord de la France, mais il m'a demandé si je pensais que les membres de sa famille qui étaient encore des témoins de Jéhovah, je mets entre guillemets témoins de Jéhovah parce que fausse appellation, mais bon, s'ils pouvaient quand même être sauvés. Il présumait que oui. Alors je lui ai demandé, mais est-ce qu'il croit que Jésus est vraiment celui qui prétend être? Il m'a dit non. Donc, on ne peut pas dire qu'il croit vraiment en lui, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Donc, j'ai dit, tu crois qu'il puisse dire à Jésus, nous ne te croyons pas quand tu dis que tu es le Fils de Dieu. Hein, nous ne te faisons pas vraiment confiance. Mais sans nous quand même. Il m'a dit, non. Peut-être que j'ai raison à me soucier un peu plus pour ma famille. Mais regarde ce qu'il dit ici. Car quiconque, regardez le verset 13, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut croire en lui pour l'invoquer pour le salut. La personne doit croire et doit croire que le message de Jésus est vrai et qu'il est applicable à sa situation. Mais cela va plus loin que de croire. La personne doit croire en quelqu'un. Vous voyez ça dans verset 14? Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui? Les deux fois. En qui ils n'ont pas cru et croiront-ils en celui? C'est-à-dire, il croit en, et la préposition grecque est assez forte ici, on pourrait presque dire dans, ça ne donne pas trop de sens en français, mais il croit dans Jésus-Christ. C'est-à-dire, il met toute leur confiance, leur propre vie en Jésus, complètement. Et dans cette confiance en lui, il croit en lui. Qu'est-ce qu'il croit? Ce que les prédicateurs ont annoncé. Qu'est-ce que les prédicateurs ont annoncé? Ce que Dieu les a envoyés à nous. Ce cœur croyant n'est pas la création de l'homme, c'est le don de Dieu, n'est-ce pas? Il y a Ephésiens 2:8 qui nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, il se réfère au salut et à la foi, mais vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même le cœur croyant est le don de Dieu. Voyez sa main dans tout ce processus. Il y a la participation humaine dans la prédication, il y a la participation humaine dans la croyance du message, mais c'est Dieu qui contrôle tout. 2 Pierre 1:1, où Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une foi. De même prix que la nôtre. Vous avez reçu cette foi. Donc c'est le don de Dieu. Donc l'origine divine du message, la transmission humaine du message, le contenu objectif du message, le récepteur croyant du message, et puis, cinquièmement, la réponse salutaire au message. Verset 13, car quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'a pas cru? quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous arrivons enfin à cette étape. Invoquer. Et nous trouvons plusieurs expressions pour cette réaction du cœur croyant qui se donne à Jésus et qui le prend pour eux-mêmes. Par exemple, dans Jean 1, 12, c'est le mot recevoir, hein, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc on peut parler de recevoir le Seigneur. On peut parler de croire en le Seigneur, Jean 3, 16, quiconque croit. Romains 4, verset 5, celui qui place sa confiance en Dieu. Et ici, en Romains 10, verset 13, celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est la réponse du cœur croyant qui maintenant veut, je peux le dire ainsi, finaliser hein, cette relation, nouvelle relation avec Jésus-Christ. Veut être sauvé, donc ils invoquent, ils reçoivent, ils croient, ils demandent. Ils prient et ils sont sauvés. Alors je vous demande ce matin, est-ce que vous avez fait ceci? Est-ce que vous avez invoqué le nom du Seigneur? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez cru dans lui? Est-ce que vous avez placé votre confiance en Dieu? Est-ce que vous avez cru le message? Est-ce que vous avez entendu le message? Pour vous, on peut dire oui, pour celui-là. Est-ce que le message a été prêché? Pour vous, on peut encore dire oui. Est-ce que les prédicateurs ont été envoyés? Oui, Dieu l'a fait, Dieu le fait. Voyez, tous ces étapes sont indispensables au salut d'un être humain. Dieu qui envoie, le prédicateur qui prêche. Un évangile où Dieu qui est maintenant entendu par des auditeurs. Un cœur qui répond en croyant dans la vérité et l'application de cette vérité à eux-mêmes. Et puis des lèvres et un cœur qui répondent par invoquer et par croire, par placer sa confiance et par recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir pas seulement fourni le salut, mais révéler le salut à nos cœurs. Prions.